Session à Rimont, sur Marie, le 24 avril 1994, dixième conférence.
En forme ce matin, pas trop fatigué. Comment peut-on affirmer que le corps du Christ était capable de souffrir? On l'affirme, c'est un fait. Jésus a souffert à la croix. Jésus a souffert à l'agonie. Voyez, comprenez bien la théologie. Hein. Je vous l'ai dit, de silex. Il y a une petite histoire là qui est très amusante pour illustrer ça et pour vous éveiller. C'était un bon russe, de vieille tradition russe.
Résurrection. Jésus dit ça. La personne.
c'est pas la même chose. Mais c'est ça qu'il faut saisir, c'est la richesse de la tradition de l'Église par rapport au mystère du Christ. Aucun ordre ne dit adéquatement ce qu'est Jésus. Ce qu'il faut être fidèle à ce que l'Esprit Saint réclame. Ça va pas. Et quand Saint Jean veut imiter ça, ça ne va pas. C'est pas la même note. Il faut savoir ce que l'Esprit Saint réclame, vous voyez. C'est Paul VI qui insiste énormément là-dessus. Chaque ordre, chaque famille chrétienne a sa note. Faut surtout pas imiter une autre famille. On louche. C'est pas le Saint-Esprit, il ne louche pas le Saint-Esprit. Qui louche. Et on louche parce que on n'est pas content, on n'a pas découvert l'amour de Dieu sur nous. Le jour où vous découvrez l'amour de Dieu sur vous, vous ne louchez plus. Et tant que vous n'avez pas découvert ça, c'est lui qui nous a aimé le premier. Alors vous voyez, on sait que Jésus a souffert à la croix. J'ai fait lire l'évangile de Jean.
C'est parce qu'on n'attend pas assez.
c'est que le lendemain, on retrouve la même tête. C'est ça qui est difficile de pardonner. Autrement, on pardonne tout de suite. Ce soir, on sera dans le ciel. La retraite se termine dans le ciel. Voyez ça. Et on continuera la retraite toute l'éternité sans s'ennuyer. C'est ça qui est merveilleux. Dans la vision béatifique, on sera dans un silence absolu et on aura des petites récréations constantes, mais merveilleuses, pas ennuyeuses. Des récréations intelligentes. C'est extraordinaire. Il y aura la charité fraternelle. Et dans la charité fraternelle, il y aura la communion des saints. Et on vivra de la communion des saints. Comme la très sainte Trinité vit de la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, cette attente est essentielle à notre vie chrétienne. Et on n'attend pas assez. Ou bien, si le monde croyait en Dieu, aurait-il besoin d'attendre Jésus ? Oui, oui. C'est essentiel à notre foi. C'est essentiel. Jésus reviendra. Et nous le savons. Et c'est dit. Vous savez bien. Regardez dans les actes des apôtres. Le jour de l'ascension. Et chaque année, le jour de l'ascension, nous retrouvons ce texte. Et ce texte, il faut le vivre tous les jours. Il reviendra dans la gloire. Ce sont les anges qui disent ça. Vous savez bien que le jour de la Pentecôte, selon les actes des apôtres, ils retrouvent Jésus au mont des Oliviers. Et là, ils discutent. Quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël? Ça, c'est les théologiens qui se posent la question. Ils n'ont rien compris. Ils veulent le royaume du Christ sur la terre. Quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël? Le jour même de l'ascension, après la croix et la résurrection. Oui, ce sont des Normands qui ont la tête dure. Hein. Ou des Bretons, si vous aimez mieux. C'est encore plus dur. Du granit. Ils n'ont rien compris. Ils se posent la question. Et la réponse, c'est que Jésus s'en va. Je me pose toujours la question, quelle sera la dernière interrogation des théologiens le jour où Jésus arrivera? Ils ne verront pas que Jésus est là. Et ils resteront dans leur question. Dans leur bulle. Qui sera leur question? Et leur question sera le sacerdoce des femmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Certains se disent rien des femmes. Ils se poseront la question gravement, alors que le pape a déjà dit non. Il n'accepte pas. Le célibat des prêtres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de prêtres, parce qu'il y a le célibat des prêtres. Il faut à tout prix que les prêtres se marient. Il y en aurait beaucoup plus. Ils n'ont pas été en Grèce. La première fois que j'étais en Grèce, j'ai vu le Péloponnèse avec le petit train. Et dans ce petit train, on voyait un prêtre qui n'était pas orthodoxe. C'était visible. Parce qu'il regarde tout de suite, hein, pas d'alliance. Hein. Donc, un moine. Et alors, il chantait des chansons extraordinaires. Pour la fiancée du prêtre. J'ai retenu ça. Pour la fiancée du prêtre. Dans le folklore commun, il y a de ces chansons. Montre, si tu te maries avec un séminari, avec un futur prêtre, attention, attention, son cœur ne sera pas à toi. J'ai retenu ça. C'est dit en grec, vous pouvez plus le dire en grec. Son cœur ne sera pas à toi, il sera divisé. Il sera pris par son ministère et il te laissera de côté. Alors fais attention. Fais attention. Je trouve ça très joli. Parce que là, on veut le seul que les prêtres se marient. On oublie ça. C'est pas la raison première. La raison première, c'est être tout entier au Christ. Mais c'est aussi être tout entier à ceux qui sont le troupeau du Christ, les brebis du Christ. Le bon pasteur est tout entier à ses brebis, il les connaît. Et il faut du temps pour les connaître. Et pendant ce temps-là, la fiancée ou l'épouse, elle fait fait la cuisine. Faut pas oublier ça. Alors, continuons. J'étais resté et je reviens un instant là-dessus. Pas très longtemps, puisque on a plus beaucoup de temps avant le retour du Christ, n'est-ce pas ? Alors, la parole dans l'évangile de Jean qui est si forte, il l'a reçue chez lui, in soi. Oui, maître, où demeures-tu ? Et Marie demeure en Jean, puisque Jean la reçoit. Et celle que Jean reçoit, il faut jamais l'oublier. Celle que Jean reçoit, c'est celle qui vit le mystère de la croix dans la compassion. Celle qui nous est donnée, c'est la femme au pied de la croix. C'est Marie portant toutes les souffrances du Christ et vivant de toutes les souffrances du Christ. Celle qui nous est donnée en premier lieu, ce n'est pas la petite Vierge Marie avant la rencontre avec Joseph. Ce n'est pas Marie à Bethléem avec le petit enfant Jésus. Celle qui nous est donnée en premier lieu, c'est Marie au pied de la croix. Alors, évidemment que Marie nous est donnée telle qu'elle est dans le regard de la sagesse de Dieu et dans le regard du Christ. En premier lieu, c'est Marie qui compatit. C'est le mystère de la compassion. C'est le mystère de toutes les douleurs du cœur de Marie. C'est celle-là qui nous est donnée. Et nous la prenons chez nous, dans notre cœur, au plus intime de notre cœur, comme Jean, à la suite de Jean. In soi, nous n'avons pas de secret pour Marie. L'ouverture du cœur. Et notre cœur est tout grand ouvert pour Marie. On la reçoit. Et c'est celle de la croix. Et celle de la croix, c'est celle de Bethléem. C'est celle de l'Annonciation. C'est celle avant de rencontrer Joseph. C'est Marie. C'est tout le mystère de Marie. C'est toute sa béatitude de la foi, sa béatitude de l'espérance, sa béatitude de l'amour. C'est celle qui est conduite par l'Esprit Saint. C'est celle-là qui nous est donnée. C'est celle qui a vécu toute la vie apostolique de Jésus. Et qui, chaque événement de la vie apostolique de Jésus, elle les a gardés dans son cœur pour les communiquer à Jean, pour nous les communiquer. C'est pour ça que je crois, vous voyez, que l'évangile de Jean, c'est la manière dont Marie a vécu du Christ. Et c'est ça qui est la grandeur de l'évangile de Jean. Le sommet de toute la révélation de l'Ancien Testament, c'est le Cantique des Cantiques. Le sommet de toute la révélation du Nouveau Testament, c'est l'évangile de Jean, qui est l'évangile du cœur de Marie. La bonne terre, qui est dans Saint Luc. Mais c'est Jean qui l'a communiqué, ça. La bonne terre qui reçoit la parole de Dieu et qui fait que la parole de Dieu porte tous ses fruits. Vous comprenez que Marie a suivi toute la vie apostolique de Jésus d'une manière beaucoup plus intense que Jean, que Pierre, que Thomas. Et donc, elle a vécu de la vie apostolique de Jésus avec son intensité d'un cœur infiniment aimant. Et quand on aime, alors tout porte, tous les
chrétienne a son point de départ dans le cœur de Marie. Et toute la vie apostolique de Jésus, elle l'a gardée dans son cœur pour communiquer tout cela à Jean. Et par Jean, de nous le donner. C'est Marie la grande éducatrice. Comme mère. première qui a vécu du mystère de la résurrection. Et dans le silence, on ne nous dit rien. Vous comprenez bien, Jean, qui a vécu auprès de Marie à la croix. Vous croyez qu'après la résurrection de Jésus, Jean n'a pas demandé à Marie ce qu'elle vivait à la croix. J'aurais été à la place de Jean, j'aurais demandé ça. Et Jean aimait plus Marie que moi. Et donc, il lui a demandé. Et Marie lui a dit, après la résurrection. Et je crois. Alors là, évidemment, c'est une hypothèse. Mais je crois que c'est une réalité. C'est une hypothèse pour le savant, mais pas pour l'enfant. Qui se laisse éduquer par Marie. Je crois que le prologue de Saint Jean, c'est ce que Marie a vécu à la croix. Une fois, j'avais dit ça à une retraite de prêtre à Châteauneuf. Et comme je voyais Marthe au milieu de la retraite, j'ai dit, Marthe, peut-on dire ça ? La petite Marthe a répondu, mais père, c'est évident. Oui, ça c'est merveilleux. Mais père, c'est évident. Le prologue de Saint Jean. C'est la contemplation de Marie à la croix. Et ça ne peut être que ça. Henriette, elle était à Éphèse avec Jean, je le crois. La maison de Marie à Éphèse, je crois. Mais c'est pas dit. Comment Marie a-t-elle quitté la terre? L'Assomption de Marie. Silence. Je suis persuadé que Jean a été présent. Il y a un apocryphe du 4e siècle. Il y en a plusieurs, du reste, qui montrent comment Marie a quitté cette terre, les apôtres étant tous autour d'elle. Je crois pas du tout que ça s'est passé comme ça. Je crois pas du tout. Marie n'a pas sonné la cloche. Soyez tous là. On va chanter le Salve Regina, n'est-ce pas? Et puis, je vais partir au ciel.
Pas du tout.
Je crois que ça s'est fait dans le plus grand silence. Marie a demandé à Jean. Vous verrez ça au ciel. Marie a demandé à Jean de garder le silence. Et Jean a gardé le silence. Ça, c'est tout le mystère de Marie. Vous comprenez bien qu'un fils qui aime sa mère est très attentif aux dernières paroles de sa mère et son testament. Le testament officiel, c'est le père qui le donne. Le testament officiel, c'est Jésus qui le donne. Mais le testament intime de la famille, c'est Marie. Et on doit se poser la question, quel est le testament de Marie pour moi? Si vous aimez Marie comme une mère, vous devez lui demander, quel est le testament de Marie pour vous? Le testament de Marie pour nous, c'est de mourir dans le silence, d'offrir notre vie dans le silence. Nous pouvons tous offrir notre vie, ça fait partie de l'adoration. Quand on adore Dieu, on offre sa vie à Dieu. On lui donne. Dieu m'a donné la vie, je lui offre. Il me prendra quand il voudra. Et Marie nous apprend à offrir notre vie dans le silence, dans l'amour. Je crois que le testament de Marie, c'est de nous apprendre d'entrer dans ce silence, d'accepter pleinement et totalement la volonté du Père sur nous, dans un abandon total. On doit se poser la question, voyez les silences de la mère, quel est le silence de Marie pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous enseigne dans son silence d'amour? Qu'est-ce qu'elle a enseigné à Jean? Elle a demandé à Jean de se taire. Elle reste auprès de Jean dans le silence. Elle quitte cette terre dans le silence. Elle est présente à la Pentecôte. Et puis après, grand silence d'amour. Et ça, c'est très très important pour nous. C'est très important de comprendre la manière dont Marie nous éduque. Elle nous éduque par son silence, comme une vraie mère. C'est difficile de recevoir les silences de Marie. Mais c'est peut-être là seulement qu'on est vraiment sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Et donc, qu'on est enfant de Dieu. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint qui sont fils de Dieu. C'est la parole de saint Paul, c'est tellement fort. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint qui sont fils de Dieu. Tant qu'on n'est pas mu par l'Esprit Saint, on n'est pas fils de Dieu. Saint Augustin disait, des quantités de chrétiens vivant encore sous l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Des quantités de chrétiens vivant encore sous l'Ancien Testament, sous la loi. Ils ne comprennent que la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Tellement peu de chrétiens vivent sous le souffle de l'Esprit. Et la vie chrétienne, c'est vivre sous le souffle de l'Esprit. Et Marie nous est donnée pour que nous vivions sous le souffle de l'Esprit. Et pour vivre sous le souffle de l'Esprit, il faut entrer dans le silence de l'amour qui vient de Marie. C'est l'Apocalypse qui nous l'apprend. Et l'Apocalypse nous montre d'une manière très très particulière comment toutes les luttes que nous vivons, toutes les luttes de l'Église, c'est les luttes du dragon contre la femme. Au cœur de l'Apocalypse, chapitre 12,
anciens.
que ça veut dire, la lune sous ses pieds? C'est-à-dire le royaume de la terre. C'est les réalités contingentes. C'est tout ce qui est corruptible. Marie est notre sœur dans l'humanité. Et donc elle est tout proche de nous. Elle sait ce que c'est. Et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. L'étoile, c'est la lumière. C'est la sagesse. C'est la doctrine. 12 étoiles couronnent sa tête. Son intelligence. Il n'y a pas une femme aussi intelligente que Marie. Hein. Je veux dire, plus intelligente que tous les hommes. Ça. Et son intelligence est totalement donnée et transformée par la foi. 12 étoiles. Et la grandeur de Marie, c'est qu'elle est mère. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. La double maternité de Marie. La maternité joyeuse de Bethléem. La maternité douloureuse de la croix. Et dans le regard de Dieu, ces deux maternités sont une. La douleur et la joie expriment l'amour. La douleur et la joie manifeste l'amour. Ce sont deux maternités d'amour qui sont une. Elle est mère de Jésus pour être mère du corps mystique. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a vu ça d'une façon étonnante. Si elle est mère de la tête, elle est mère du corps. Impossible autrement. doit jamais discuter avec le démon. La femme ne discute pas avec le démon, Marie. Or, Marie a une intelligence plus fine que celle du démon. Beaucoup plus affinée par la grâce, par l'amour. C'est l'amour qui permet à notre intelligence d'être perspicace. Une intelligence rationnelle, c'est gros. pasteur. Alors je l'ai pris après à part et je lui ai dit, dites un peu, à voix vous pouvez le dire, dites un peu, qu'est-ce qu'on est pour vous? Qu'est-ce que Jésus est pour vous? Alors il a dit simplement, vous êtes une secte qui a réussi. Sur la tête.